RJB Info.
Le journal, Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir. Deux Tavanois veulent devenir champions du monde de la fondue. David et Tristan Yo concourront le mois prochain dans le canton de Vaud pour décrocher cette distinction. Entre le père et son fils, le fromage est une véritable histoire de famille, vous l'entendrez. Une nouvelle galerie d'art rend hommage à Silver Rebeté. L'ancien atelier du peintre à Fornay-Dessus a été transformé par ses fils et ses belles-filles. L'inauguration et le vernissage de la première exposition auront lieu samedi. Davantage de Suisses boudent les médias traditionnels, c'est ce qui ressort d'une étude de l'Université de Zurich. Ils se tournent davantage vers les réseaux sociaux et leur contenu plus divertissant. Le brouillard devrait régner demain aux premières heures. Il sera ensuite chassé par de belles éclaircies sur l'ensemble de la région. Les nuages pourraient toutefois revenir en soirée. Côté température, il fera au mieux 16 degrés. Cuisiner la meilleure fondue du monde en duo, père et fils, c'est l'objectif que se sont fixés deux Tavanois. David et Tristan Yo vont prendre part au Mondial de la fondue le samedi 16 novembre à Tartenien dans le canton de Vaud. Le père et son fils aîné devront tirer leur épingle du jeu dans la catégorie pro. David, grand adepte du fromage, est cuisinier de formation. La route était donc toute tracée pour son fils qui est devenu fromager de métier. Peut-on ainsi dire que Tristan est tombé dans le caquelon quand il était petit? La réponse de son père.
Alors non, pas du tout. Lui n'aimait pas le fromage avant de devenir fromager. Il a rendu un papa heureux parce que moi, je suis un amoureux du fromage. J'adore le fromage sous toutes ses formes. Je peux manger une raclette suivie d'une fondue. Au repas suivant, je vais me faire une croûte au fromage, pas de problème. Mais lui, pas du tout. Et il a eu ce plaisir et c'est une passion qu'il a découvert par lui-même, de lui-même.
On peut quand même dire que la fondue, c'est une histoire de famille, donc.
Ah, complètement. Une semaine sans fondue, c'est une semaine foutue.
Ça reste le plat phare à la maison, du coup, Tristan?
Pour moi, non. Moi, franchement, c'est pas mon plat phare. Moi, j'aime bien le préparer. J'aime le voir sourire les gens quand ils mangent. La convivialité que ça apporte, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Mais après, moi, c'est pas quelque chose que je vais manger en autant grande quantité. Moi, il y en a, mieux c'est pour moi.
Les propos recueillis par Yanis Gonia et retrouvez l'entretien en intégralité sur notre site internet. Une galerie d'art perpétue l'héritage de Silver Rebeté. Les fils et belles-filles du peintre jurassien ouvrent les Ombelles, un nouveau lieu culturel à la frontière avec le Jura bernois à Fornay-Dessus. Ils ont transformé l'atelier de l'artiste qu'il avait lui-même aménagé à partir d'une ancienne classe d'école. Après la mort de leur père, Didier Rebeté et son frère Doric se sont interrogés sur la nouvelle vie à donner au lieu. Didier Rebeté.
On aurait pu en faire un appartement, on aurait pu faire différentes choses. Et on a trouvé beaucoup plus judicieux, finalement, de se dire, bah tiens, il y a eu de l'art, il y a eu un artiste, on va en faire, finalement, un lieu à long terme où il pourrait se passer des activités culturelles.
Pour l'instant, il y a une exposition avec encore beaucoup de toiles de votre père. Par la suite, l'idée est d'en garder un petit peu ou pas forcément?
Aujourd'hui, pour finalement lancer la galerie, le vecteur, c'était mon père. L'idée aujourd'hui de cette première exposition, de la naissance finalement de cette galerie Les Ombelles, c'est simplement d'exposer ces toiles et les sculptures de Lynn Héritier, que je trouve très talentueuse, et finalement c'est le lancement. Dans les futures expositions, il y aura plus Silver Rebeté ou très très peu Silver Rebeté. Silver, c'est le passé. Et finalement, l'avenir, c'est pas lui qui l'incarne, ça sera des futurs artistes qu'on va finalement exposer, je pense, tous les 3 mois. On essaiera de créer une dynamique dans ce lieu.
Didier Rebeté au micro de Nina Beret. La galerie Les Ombelles accueille ainsi une première exposition qui mêle les peintures de Silver Rebeté et les statues de la sculptrice jurassienne Lynn Héritier. Le vernissage a lieu samedi. Une neuchâteloise star montante du streaming, Justine Noguera ou Baguera Jones en ligne, se filme lorsqu'elle joue aux jeux vidéo. La jeune femme retransmet ses vidéos en direct sur la plateforme Twitch. Une fenêtre de chat lui permet en même temps d'interagir avec ses spectateurs. Cette activité de streaming connaît un important essor depuis quelques années. En 2017, les jeux les plus populaires ont totalisé 198 millions d'heures observées. Justine Noguera comptabilise quant à elle plus de 400 000 vues sur ses vidéos, un chiffre honorable comme l'explique la streameuse.
Ça commence à être une assez grosse chaîne. Pas énormément de monde atteint ce nombre de followers.
Et à votre avis, qu'est-ce qui fait votre succès?
Je pense quand même, ça fait un peu beaucoup d'ego, mais je Je pense que c'est ma personnalité principalement, vu que ça va être beaucoup la discussion avec les gens. Je suis pas très bonne aux jeux vidéo auxquels je joue, donc ils viennent pas pour mon niveau sur le jeu, ils vont plus venir pour discuter, pour passer du bon temps. Souvent tout le monde, enfin j'ai beaucoup de messages qui me disent que les gens viennent se détendre en fin de journée, regarder le stream.
C'est presque un art de la scène en fait.
Je pense qu'on est la plupart dans les streamers des divertisseurs, effectivement. On est là pour faire un peu oublier le quotidien aux gens et passer des bons moments. Il y a des joueurs professionnels qui montrent le jeu, mais les autres, comme moi, on est surtout là pour amuser les gens, on est des troubadours.
Des propos recueillis par Audrey Mondi. À l'avenir, Justine Noguera espère pouvoir vivre à 100% de sa passion. Les médias traditionnels qui proposent de l'information solide, politique ou économique n'ont plus la cote dans le grand public. C'est ce qu'affirme l'analyse de la qualité des médias suisses 2019. L'étude a été effectuée par un institut de l'université de Zurich et présentée aujourd'hui. L'information de qualité est victime des plateformes numériques et des réseaux sociaux sur lesquels le grand public, jeune surtout, se contente d'échanges privés et de divertissements. L'évolution est préoccupante. La part de la population qui ne s'informe pas régulièrement, qu'on qualifie d'indigente médiatique, est passé de 21% en 2009 à 36% cette année. Les explications d'une des chercheuses de l'ANA de la qualité des médias, Andrea Heupkli.
Il y a encore une fois moins de Suisses qui s'informent de manière stable, on va dire. Ils s'informent plutôt en passant sur les réseaux sociaux. Et là-bas, ils trouvent les nouvelles qu'ils trouvent. Et souvent, c'est surtout des nouvelles divertissantes et pas d'une pertinence très augmentée pour la société.
Les médias traditionnels ont tous un site internet. Ils sont plus ou moins présents sur ces réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne parviennent pas à capter l'auditoire?
Parce que les médias sociaux sont surtout des médias émotionnels, c'est-à-dire les gens ils passent beaucoup de temps à se divertir ou à parler avec les amis. C'est très difficile de trouver son public là-bas avec des informations importantes, ce qui est surtout le devoir du journalisme.
Des propos recueillis par Serge Jubin. À l'étranger, la justice marocaine réduit la peine d'un Suisse condamné pour constitution de bande terroriste. L'homme de 33 ans avait écopé de 10 ans de prison ferme. Cette sanction a été réduite de moitié. Pour rappel, l'individu avait été appréhendé le 10 janvier lors d'une vague d'arrestations déclenchée à la suite de la décapitation de deux jeunes touristes scandinaves dans les montagnes de l'Atlas. Son dossier n'a toutefois qu'un lien très vague avec le double meurtre actuellement jugé en appel. La justice espagnole a lancé un nouveau mandat d'arrêt international contre l'ancien président catalan Carles Puigdemont. L'annonce a été faite aujourd'hui par la Cour suprême espagnole. Elle intervient le même jour que la condamnation de 9 autres indépendantistes catalans à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour la tentative de sécession en 2017. Carles Puigdemont vit aujourd'hui en exil en Belgique. Par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a appelé aujourd'hui à une nouvelle étape en Catalogne basée sur le dialogue. Il s'est exprimé dans une allocution télévisée à la suite de la condamnation des dirigeants indépendantistes catalans. Le bilan du passage d'un typhon samedi sur le Japon s'alourdit encore. Au moins 56 personnes ont été tuées d'après un nouveau décompte annoncé aujourd'hui par les médias nippons. Des milliers de secouristes continuent de rechercher des survivants dans les zones inondées. Au total, 142 rivières ont débordé, principalement dans le nord et l'est du pays.
À l'écoute d'RJB, il est 18h09.
Sport. Deux nouveaux visages font leur apparition dans l'effectif du HC Bienne. Le club de National League de hockey sur glace a engagé le Suédois David Ullström et le Davosien Tino Kessler. Le premier s'est engagé jusqu'au terme du championnat, alors que le second est prêté jusqu'à la fin de l'année. Ces deux attaquants ont été recrutés pour compléter l'offensive biennoise et pour faire face aux blessures. L'engagement du Suédois David Ullström ne découle pas des performances des quatre autres étrangers du HCB, à en croire le directeur technique zélandais Martin Steinegger.
Non, ça c'est deux différentes choses. C'était plutôt une décision sur le programme avec les matchs qu'on a. On joue presque tous les trois jours. Depuis fin août, on a eu ce programme. Et on veut être vraiment prêt pour s'il y a une petite blessure ou s'il y a quelque chose, qu'on peut toujours aligner une meilleure équipe que possible.
Et du côté de Tino Kessler, un prêt jusqu'à fin décembre. Pourquoi cette date-là? Pourquoi pas aller au terme de la saison?
Parce qu'on attend le retour de Damien Brunner mi-fin novembre. Et puis on espère que ça va finir une fois avec les blessures. Et puis si c'est encore ouvert, on peut encore discuter avec Amos. Mais le premier contrat, c'est jusqu'à fin d'année maintenant.
Martin Steinegger répondait à Mathieu Schaffner. Le HCBN jouera demain son dernier match de groupe en Ligue des Champions. David Hultström et Tino Kessler pourraient déjà être qualifiés pour cette rencontre. Tennis, Roger Federer va bel et bien prendre part aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Le Balois a confirmé ses intentions aujourd'hui à l'occasion d'une exhibition au pays du soleil levant. Roger Federer va ainsi participer pour la 5e fois de sa carrière à des Jeux Olympiques. Il avait manqué les JO de Rio en 2016 en raison d'une opération au genou. Roger Federer avait gagné l'or en double avec Stan Wawrinka en 2008 et l'argent en simple en 2012. Bernard Chalande fait rêver tout un peuple. Le Neuchâtelois est à la tête de l'équipe nationale de football du Kosovo. Et ce soir à Pristina, le Kosovo atteint le Monténégro dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020. Formée de néophytes au niveau international, l'équipe kosovare réalise actuellement un parcours surprenant. Si elle venait à battre le Monténégro, elle maintiendrait ses chances de se qualifier pour la phase finale du tournoi européen. Au Kosovo, l'engouement populaire est énorme autour des prestations de l'équipe nationale. Bernard Chalande en est conscient, mais il invite ses joueurs à garder les pieds sur terre.
Ça fait déjà un moment que j'appuie chaque fois que je retrouve l'équipe sur la simplicité, sur l'humilité, sur le travail et toutes ces choses-là. Malgré tous les compliments, je le vois contre l'Angleterre, par exemple. Bon, le résultat 5-3 a été finalement un résultat qui a été, je ne veux pas dire célébré comme une victoire, mais les gens ici étaient contents. Ils nous ont dit des bravo, ouais, c'était bien marqué 3 buts contre les Anglais, etc. Moi, j'ai montré les 12 occasions but des Anglais. Et s'ils avaient été très efficaces en deuxième mi-temps, on aurait pu en prendre 8. C'est la réalité de ce foot. Et si on rate un petit peu, par exemple, là, on a joué beaucoup trop offensivement, on a oublié de défendre. On se fait prendre en compte sur des situations de 2 contre 2, de 4 contre 4 défensivement contre les Anglais. En jouant comme ça ces prochains matchs, eh ben, on ne les gagnera pas, ça c'est sûr.
Une victoire ce soir permettrait au Kosovo de revenir à un point du deuxième du groupe, la République tchèque. Sachant que la 3e place peut aussi lui ouvrir la porte des barrages, l'équipe de Bernard Chalande devra encore affronter les 2 premiers du groupe. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, très belle soirée.
Très belle soirée à vous également, Tony Montandon. La suite de votre programme, c'est bien sûr la météo, un peu de musique et ensuite on prend l'air sur RJB. Pour ce soir et en première partie de nuit, nous pourrons profiter d'un temps bien calme et d'une relative douceur. Ensuite, la masse nuageuse s'installera progressivement dans la région. Demain, nous nous réveillerons sous le brouillard et en fin de matinée, de petites, voire des belles éclaircies pourraient se frayer un chemin. Mais dès l'après-midi, les cumulus vont gentiment prendre le dessus et laisseront éclater des averses en soirée. Côté température, ça baisse d'après Météo News. Il fera entre 8 et 11 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 14 degrés dans la vallée de Tavannes, 15 degrés à Moutier, maximum 16 degrés autour du lac de Bienne. Mercredi et jeudi tendront plutôt vers le beau, mais on repasse à un régime pluvieux en fin de semaine.